Nous allons commencer ce matin l'étude du livre des Actes des Apôtres, qui est inscrit à notre programme. Nous n'en ferons bien sûr que les premiers chapitres, mais nous allons le commencer dans le désir de le poursuivre aussi pleinement que possible. Alors, Actes des Apôtres, nous allons lire les 7 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Celui qui écrit ici et qui dit « J'ai parlé » dans mon premier livre, c'est Luc, l'auteur du 3e évangile. Et ici donc, c'est un second livre qu'écrit l'évangéliste Luc. Et il s'adresse, comme il l'a fait pour le premier livre, l'évangile, qui porte son nom, il s'adresse à un certain Théophile, appelé excellent ou même très excellent dans le début de l'évangile. Il était un homme de distinction, très probablement romain, mais nous ne sommes pas renseignés sur ce personnage. C'était un ami, un correspondant de l'évangéliste Luc, et certainement, de par une direction de Dieu, il avait adressé son livre à lui, pour l'adresser, bien sûr, à bien d'autres. Mais il y avait là un premier destinataire, ce qui ne nous étonne pas, comme nous allons le remarquer dans un instant. Luc, c'est l'abréviation de Lucanus. Il était originaire d'Antioche et n'était pas né juif. Il était médecin, comme Paul nous l'apprend dans le chapitre 4, verset 14 des Colossiens. Il était médecin. Et il était également un lettré, ce qui est très apparent dans le style qui est le sien. L'inspiration n'a pas laissé indifférent, si vous voulez, les formes de style que tel ou tel auteur a pu emprunter. Le fait que Luc était médecin a aussi une conséquence intéressante, c'est que, en bien des cas, les maladies guéries par Christ et les apôtres ont été désignées. Exactement désigné. Ça a été un avantage. Et puis, Luc était un homme de grande foi. Enfin, c'est lui que Dieu avait désigné pour être l'un des rédacteurs du Nouveau Testament. Il fut converti au Seigneur dès sa jeunesse et des auteurs des premiers temps de l'Église, Origène et Épiphane, le placent même parmi les 70 disciples que le Seigneur Jésus avait envoyés en Israël. Il devint le fidèle compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Alors, nous établissons tout de suite, pour nourrir notre méditation, une première remarque. D'une manière très générale, les livres qui composent la Bible ont été rédigés dans le cadre de certaines circonstances qui se sont présentées. Et ils ont tout d'abord un caractère, donc, historique. Une situation s'est présentée quelque part et un écrit a été composé par un écrivain sacré face à cette situation, soit pour y remédier, soit pour apporter un enseignement jugé nécessaire. Et c'est tout cela que nous recueillons en tant que parole de Dieu. On peut dire que les écrits sacrés ont donc d'abord un caractère historique, mais constituent des témoignages circonstanciés. En somme, la Bible est un ensemble de témoignages circonstanciés et l'inspiration des Écritures lui donne une valeur certaine, mais aussi une valeur actuelle et même éternelle. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc, de par l'inspiration, il y a une certitude, d'abord, il y a une certitude absolue, ensuite, il y a une valeur éternelle. Le récit d'un fait ou la lettre qui est adressée à certains premiers destinataires devient parole de Dieu et par conséquent parole éternelle. Dans le livre des psaumes, par exemple, presque tout est en forme de prière adressée à Dieu. Des hommes ont donc été poussés à élever certaines prières et ce sont ces prières qui sont devenues paroles de Dieu. Non pas pour que nous les répétions, bien sûr, mais pour qu'elles guident nos cœurs et qu'elles nous inspirent à nous-mêmes la prière que Dieu aime entendre et recevoir. Donc le livre des psaumes doit être un livre que nous consultions, que nous relisions, que nous méditions souvent. L'enseignement de la doctrine et des fondements de la foi, c'est-à-dire le fondement de Christ et des apôtres, comme il est appelé, et c'est une chose à bien conserver dans sa mémoire, le fondement de Christ et des apôtres nous est donc transmis par la Sainte Écriture, par le moyen surtout de récits historiques ou de lettres, de documents adressés à certains destinataires du moment, selon un besoin qui se présentait, et par conséquent, disons que la Sainte Écriture nous enseigne dans le relief de la vie et de l'action. Elle n'est pas, ou elle est très peu, à certains moments peut-être, mais en général, elle est très peu un traité de dogmatique, n'est-ce pas, un traité de théologie, mais elle est un enseignement qui est donné dans le mouvement de la vie, dans le relief de la vie. Il y a quelque chose Et Dieu répond ou intervient dans ce quelque chose. Et tout cela a été, bien sûr, choisi par le Saint-Esprit, car il y avait bien d'autres témoignages qui ne sont pas devenus paroles de Dieu. Le Saint-Esprit a fait un choix. Vous savez que Jean dit même que Jésus a fait et dit bien d'autres choses. Si on écrivait tout, on remplirait la terre de livres. Alors, le Saint-Esprit a fait un choix d'abord, n'est-ce pas? Puis, il a inspiré les auteurs choisis par Dieu. Alors, le livre des Actes nous apporte une histoire, lui aussi. Il nous apporte l'histoire de l'Église naissante sur et sa, la vie de l'Église sur une profondeur de 27 années environ. C'est-à-dire de à peu près de l'an 34 à l'an 61 du 1er siècle. Luc fut le témoin oculaire de la plupart des événements qu'il rapporte avec une grande exactitude et une grande foi guidée par l'inspiration du Saint-Esprit et utilisant les dons naturels qu'il avait, les connaissances naturelles qu'il avait, Saint-Esprit les lui fait utiliser, pour faire une rédaction dans un grec qui est excellent. Il savait parler le grec, il était un lettré, en même temps. Une deuxième remarque qu'il faut tout de suite établir pour notre besoin, c'est que le livre des Actes met en évidence la nécessité de l'enseignement dans l'Église, la grande nécessité de l'enseignement. Bien sûr, il faut proclamer le royaume de Dieu au dehors, et c'est bien l'Église qui va le faire aussi, par le moyen des témoignages et des ministères, de certains ministères, mais l'enseignement dans l'Église est quelque chose de fondamental. Cela, les Épîtres nous le montreront aussi, bien sûr. Mais enfin, disons que le livre des Actes met cela en évidence. Regardons le verset 1. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il importe que l'enseignement du Seigneur Jésus en entier, complètement, s'il y a des choses qui n'ont pas été écrites de ses actes et de ses paroles, cependant, tout ce qui a nourri l'enseignement du Seigneur Jésus a été consigné dans le Saint-Livre. Et puis alors, si nous allons à la fin du livre des Actes, c'est-à-dire au chapitre 28 et au verset 30, nous lisons ceci. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voyons là Paul qui, bien sûr, quand il s'agit de gens qui ne sont pas convertis, leur annonce le royaume de Dieu, ou si vous voulez, il évangélise, mais aussi, n'est-ce pas, il enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et puis, dans le cours du livre des Actes, alors donc le commencement et la fin nous mettent en présence de l'enseignement, de cette nécessité de l'enseignement. Au chapitre 5 et au verset 42, nous lisons ceci, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Mais souvent, quand il s'agissait de membres de l'Église, l'annonce de la bonne nouvelle était incluse, elle aussi, à l'enseignement. dans le chapitre 18 des Actes, verset 25, un juif nommé Apollos, alors, il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean. Il enseignait avec exactitude. Dans le chapitre 19 et au verset 9, là nous trouvons Paul à Éphèse, et nous lisons, « Mais comme quelques-uns restaient quelques-uns des Juifs à qui il s'était adressé dans la synagogue, restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. » C'est une véritable école biblique, celle-là. Dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Mes amis, il n'y a aucun moment aussi riche en manifestations prodigieuses, miraculeuses, que celui-là. Aucun autre. Et qu'est-ce qui est à l'origine? L'enseignement de Paul. Alors ça, c'est une chose, n'est-ce pas, qu'on oublie. Parce que, bien sûr, la direction la plus couramment suivie, celle qui semble surtout attirer les préoccupations, c'est l'évangélisation. C'est bien. Ne retirez rien à l'évangélisation. Mais ne réduisez pas ou ne supprimez pas l'enseignement. Vous empêcherez l'évangélisation d'avoir de la puissance. L'évangélisation aura d'autant plus de puissance qu'elle sera pratiquée par une église. Je dis bien une église, parce que ce n'est pas seulement l'évangéliste qui évangélise. Lui, il parle. Lui, il suscite la foi dans ses auditeurs. Mais l'église est un témoignage sur lequel l'Esprit de Dieu se fonde. Et si le témoignage de l'église est vacillant, n'est pas bon, l'évangélisation ne vaudra rien, n'aura pas de fruit. Ah, il faut que ces choses soient tout de même dites et connues. Parce que l'enseignement, n'est-ce pas, est négligé. Et c'est une des grandes causes de faiblesse. Rappelons-nous dans les Colossiens, l'apôtre Paul qui nous dit, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, je veille à amener tout homme à la perfection, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à devenir vraiment adulte, parfait, pour le Seigneur. Et cela, n'est-ce pas, par le moyen de tout le conseil de Dieu. Paul ne retire rien de tout le conseil, il annonce tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire qu'il enseigne tout ce qui concerne, en effet, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une chose sur laquelle j'insiste, parce que nous avons eu ici, dans cette œuvre-là de Père Guillot, nous avons eu au départ la vision de l'enseignement. Et c'est une vision que Dieu nous a donnée. Et quand j'étais passé 4 ans auparavant, je ne connaissais pas du tout cet endroit, j'étais passé à pied sur cette route, m'étais arrêté là, pourquoi, j'en sais rien, en me promenant, m'étais arrêté là. Et j'avais aperçu à travers les arbres cette bâtisse, et j'avais eu cette pensée qui était venue, n'est-ce pas, très nette en moi, c'est là l'œuvre de Dieu. Puis j'y avais plus pensé. 4 ans se sont passés quand un jour M. Christian m'écrit en me disant, voilà, on me propose d'acheter un château. Et Monsieur Christian n'avait aucune intention particulière en achetant un château, alors il m'appelle, bon. Et puis, nous avons mis, c'est le cas de le dire, Dieu à l'épreuve pour l'achat de ce château, et tout s'est présenté en effet dans le sens d'une réalisation de la chose, elle a été faite, et alors là, c'est confirmé la vocation de cette œuvre pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et par conséquent, n'est-ce pas, moi, je ne sais pas qui viendra après moi, n'est-ce pas, et bien sûr, ça, Dieu le sait, mais de tout sens, cette œuvre est vouée à l'enseignement de la parole de Dieu dont l'Église a le plus grand besoin. Il est souvent difficile de suivre un enseignement dans les assemblées. Pour la bonne raison, c'est qu'en semaine, on a une fraction assez souvent réduite des chrétiens du dimanche, n'est-ce pas, qui viennent au culte le dimanche. Et alors, ils ont une réunion de prière en général en semaine, une réunion, quelquefois deux, mais une, puis une réunion ou deux d'évangélisation, et c'est à peu près tout l'effort qu'on peut leur demander. Il y a des gens qui habitent loin de leur assemblée, hein, c'est difficile de les assembler. Alors, l'enseignement, ce qu'on appelle souvent étude biblique, eh bien, n'est pas suffisamment pratiqué. Alors, il arrive quoi? Eh bien, un affaiblissement, bien sûr, un retour en arrière, affaiblissement de la foi, manque de discernement, aptitude à saisir tout vent de doctrine, n'est-ce pas? Toute erreur qui passe là dans l'air. Hein? Voilà ce à quoi ça aboutit. Et par conséquent, à un grand mal dans l'Église. Alors que l'enseignement, positivement, doit apporter une grande force et un grand bien. Donc, le livre des Actes nous montre l'enseignement et l'objet de cet enseignement, ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, c'est vaste, bien sûr, ce qui concerne sa personne, ce qui concerne tout ce qu'il a lui-même découvert aux deux disciples d'Emmaüs. Il leur a montré dans l'Ancien Testament tout ce qui le concernait, tout ce qui parlait de lui. Nous aurions bien voulu être là, n'est-ce pas, dans la poche de l'un de ses deux disciples, pour écouter tout cela. Mais souvent, je me suis dit, quel malheur qu'ils n'aient pas eu, eux, la capacité de nous rapporter tout cet enseignement de Jésus. Ben, il faut le trouver, évidemment, dans le reste de l'Écriture. Et puis, le Saint-Esprit veut que nous cherchions aussi, veut que nous cherchions. En tout cas, n'est-ce pas, ce qui a été dit prophétiquement, donc tout l'Ancien Testament est lui-même une source de connaissances et qu'il ne faut pas négliger. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, on oublie quelquefois que la bonne nouvelle c'est le royaume de Dieu, la proclamation du royaume de Dieu. Alors, de ce côté-là, il y a souvent une faiblesse aussi. On ne sait pas ce qu'est le royaume de Dieu. Il y a un jour quelqu'un qui a voulu, dans un milieu évangélique, poser des questions sur le royaume de Dieu. Les réponses qui ont été faites avaient de quoi vous faire vraiment bondir. On ne sait pas ce qu'est maintenant le royaume de Dieu. Et pourtant, le Seigneur dit « Cherchez essentiellement le royaume de Dieu et sa justice ». Alors, le royaume de Dieu, la voix de Dieu aussi, le livre des Actes nous montre que l'un des buts aussi de l'enseignement, c'est de bien situer, de bien montrer la voix de Dieu, enseigner la voix de Dieu, en même temps que, bien sûr, à tous ceux qui, du dehors, est annoncé, proclamé, le royaume de Dieu. Remarquons dans le verset 1 du livre des Actes, remarquons une forme. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Dès le commencement de son œuvre, mais il y a ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, donc il n'a pas fini. Il a commencé de faire et d'enseigner. C'est bien ce que Jésus dit à la fin de l'évangile de Jean. Et encore beaucoup de choses, énormément de choses à vous dire. Et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira, lui, dans toute la vérité, on peut comprendre même dans toute la connaissance de la vérité. Vous me direz, mais va-t-il ajouter à la Bible ? Il va ajouter, oui, aux évangiles, le livre des Actes, les Épîtres, l'Apocalypse, par le moyen des écrivains sacrés. Mais essentiellement, le Saint-Esprit va illuminer l'Écriture, illuminer ce qui a été écrit. Et s'il ne l'illumine pas pour nous, nous allons y trouver une lettre, nous allons nous intéresser aux petits faits historiques, nous allons annoncer ou discuter sur des détails, et nous ne comprendrons pas la valeur spirituelle des récits et de tout ce qu'ils contiennent. Luc va maintenant exposer, après avoir écrit un évangile, il va maintenant exposer comment Jésus a continué d'agir. Puisque Jésus, n'est-ce pas, a commencé, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Eh bien maintenant, Luc va exposer comment Jésus a continué d'agir et d'enseigner. Et à travers le livre des Actes, nous allons par conséquent trouver la continuation de l'enseignement du Seigneur Jésus à travers son Église et par son Église. Puisque la sagesse infiniment variée de Dieu pour les anges même se voit par l'Église et dans l'Église. Alors il va continuer par son Église, dont le début du livre des Actes va montrer tout de suite la naissance, au chapitre 2, la naissance, le jour de la Pentecôte. Ainsi, les évangiles n'ont trait qu'à l'action du Seigneur visible. Jusqu'au jour où il fut enlevé, nous dit le verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé. Ce que Jésus a commencé dans la phase de sa présence visible sur la terre. Il faut savoir toutes ces choses, l'œuvre qu'il a faite, l'œuvre de rédemption qui est accomplie, qui est parfaite, tout est accompli. Bien, mais il y a un enseignement qui va venir ensuite. Alors, les évangiles ne mettent pas un terme à l'œuvre du Christ. Après l'accomplissement de la rédemption, après l'enlèvement du Seigneur, donc, son retour à son Père, ce sera l'Église, et qui, elle, dispensera un enseignement, et par le moyen de Pierre, par le moyen de Paul, le moyen de Jacques, le moyen de Jean, n'est-ce pas ? Un enseignement va venir. Et nous savons que l'apôtre Paul, c'est tellement vrai que l'apôtre Paul a reçu des révélations dont on ne trouve pas trace dans les évangiles. Paul, notamment, a eu des révélations, Jean aussi. Pierre, peut-être, c'est moins net ou moins apparent, mais Paul et l'apôtre Jean, ou si vous voulez, Paul après, ont reçu des révélations qu'ils nous ont transmises en forme d'écriture inspirée. Et alors, ce sera le ministère de Christ en tant que chef de l'Église. Le ministère de Christ. Donc, Christ continue. Il continue. Maintenant, il continue. Il enseigne encore. Mais il n'apporte évidemment aucun élément nouveau, puisqu'il y a un point final à la Bible. Oh, mais seulement, attention, tout ce que contient la Bible, vous savez, tout cela a besoin du Saint-Esprit, bien entendu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Encore là qu'on aurait bien voulu être dans un petit trou, n'est-ce pas ? Écoutez ça, tout ce que le Seigneur a enseigné, a dit des choses qui concernent le royaume de Dieu à ses disciples et à ses apôtres. 40 jours. Eh bien, 40 jours, c'est une période que nous retrouvons plusieurs fois dans les Écritures, et elle a un sens. C'est ou 40 jours ou 40 ans. Moïse, par exemple, resta sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Plusieurs textes nous le disent dans le livre de l'Exode, dans le Deutéronome, 40 jours et 40 nuits. Et c'était là une préparation. Et Moïse nous dit lui-même qu'il se prosterna 40 jours et 40 nuits, se prosterna devant le Seigneur. C'était une préparation au don de la loi, au don de la loi et de l'alliance. Il allait être, disons, on l'a appelé souvent le législateur d'Israël, moi je pense qu'il a été celui qui a promulgué la loi. En Israël, il était un médiateur. Eh bien, avant, pour recevoir ce don de la loi, car c'est un don, et l'alliance, eh bien, il a fallu qu'il soit en présence du Seigneur 40 jours et 40 nuits. Et puis, nous avons les pérégrinations du peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Mais là, des textes nous montrent, Dieu rappelle qu'il a conduit son peuple et l'a fait circuler, pérégriner, 40 ans dans le désert. C'était un temps de préparation. Préparation à quoi? À prendre possession du pays de la promesse. Il n'était pas prêt. Tous n'étaient pas prêts. Il y en a une partie, bonne partie, qui va mourir dans le désert. À cause précisément du manque de foi. Une préparation donc à un don là aussi, le don du pays de la promesse. Remarquez ceci, c'est que il y a une préparation à recevoir un don de Dieu. Préparation à une œuvre, mais dans cette œuvre il y a toujours un don de Dieu. C'était pour Moïse le don de la loi. Pour le peuple, c'était le don du pays de la promesse. En ce qui concerne les autres périodes, nous remarquons aussi, par exemple, que Saül, qui est le type de l'homme de la chair, Saül qui est ce roi que Dieu a donné, mais Dieu a donné en cédant à une demande du peuple. Et quand le peuple demandait, il demandait avec un certain esprit. Il demandait un roi qui lui convienne, un roi qui soit un guerrier. Ben alors, Dieu lui donne un roi qui a une tête de plus que tout le monde. Ah, tu en veux un comme ça? Ben, tu vas l'avoir. Et tu vas voir ce que ça fait, mais Dieu joue correctement le jeu. Il lui donne le Saint-Esprit à celui-là. Seulement, c'est un homme qui n'a pas été choisi, vraiment par Dieu, choisi librement, je veux dire, par Dieu, n'est-ce pas, indépendamment des récriminations du peuple, et bien sûr, c'est un homme de la chair qu'il faudra rejeter. La chair est rejetée. Alors, lui, il règne 40 ans, comme nous le dit précisément chapitre 13 des Actes. Et puis, David vient, ah, c'est l'homme de l'esprit. Ouh, David, oui, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Hein, comme je voudrais bien que nous puissions dire ça de nous tous qui sommes ici, et bien de bien d'autres aussi, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là, n'est-ce pas, mais que nous aimons. Oui, car il régna 40 ans, lui aussi, David, il régna 40 ans. Et tout ça, ce sont des périodes de préparation, parce qu'à la fin de son règne, David va recevoir lui aussi le don d'une alliance. Il va recevoir un don aussi. Saül s'est montré dans cette période de préparation qui lui a été laissée incapable. C'était la chair. Elle ne peut pas se préparer, la chair. Elle s'est préparée qu'à quoi? Qu'à être rejetée. La chair ne peut pas se préparer. Mais David, homme selon l'esprit, lui s'est préparé, il a reçu un don. Le don d'une dynastie, d'une royauté, un traité en tout point bien réglé, une dynastie, sur, et un trône, n'est-ce pas, sur lequel le Fils de Dieu va s'asseoir et règnera éternellement. Il s'assiera sur le trône de David, son père, et règnera éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors après, c'est Salomon. Ah, Salomon, nous ne le qualifierons pas, parce qu'au début, c'est excellent, nous le voyons dans des dispositions magnifiques. Dieu le comble ce règne pour en faire le type du règne de Christ. Car oui, il y a là une figure, une apparition des caractères du règne de Christ pendant le millénium. Ah, chacun était sous sa vigne et sous son figuier. Il y a eu un moment fugitif, bien sûr, de bonheur sous le règne de Salomon, qui était nanti d'une sagesse spirituelle extraordinaire. Eh oui, seulement, il s'est détourné, lui, de Dieu. Il a régné 40 ans aussi, et il a préparé, quoi, malheureusement, un malheur. Dieu lui a fait don. De quoi ? D'une division. Le peuple de Dieu sera divisé après lui, pas pendant son règne, à cause de la promesse faite à David. Mais aussitôt fini le règne de Salomon, intervient la division. Et c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait la division. Voyez, l'unité de l'Église, d'où viendra-t-elle ? L'unité du peuple de Dieu. D'une fidélité, d'une grande fidélité, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas cette fidélité, le Seigneur lui-même détruira l'unité, l'union. Il n'en voudra pas, parce que l'union, c'est une des manifestations de la perfection, l'union. C'est une manifestation de la perfection. Et Dieu ne peut pas laisser les caractères de la perfection se manifester là où il y a l'imperfection, où il y a le désordre dans les cœurs et dans les vies. Il ne peut pas. De même, n'est-ce pas, nous l'avons déjà dit, le pays de Canaan était un magnifique pays tant que le peuple était fidèle. Et puis, s'il était infidèle, Dieu envoyait la sécheresse, la famine. Le pays était brûlé, détruit par des ennemis. Lorsque Adam devint cet homme révolté par sa désobéissance, eh bien, le sol fut maudit à cause de lui. Maudit à cause de lui. Et les animaux dont la destinée est liée à celle de l'homme, eh bien, les animaux empathisent, toute la création même empathie par celui qui l'a conduit à la vanité, à la destruction, c'est l'homme. Eh bien, pourquoi ? Parce que il n'est pas possible que le cadre où vit l'homme soit parfait si l'homme, lui, descend dans tous les degrés de l'imperfection, de l'iniquité, de l'apostasie. Il n'est pas possible. Alors, pour Jésus, 40 jours, après la résurrection, c'est la préparation. C'est un temps de préparation, car il va y avoir un don. Il va y avoir toujours un don de Dieu. C'est la préparation au temps de l'Église, c'est-à-dire au temps de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, Jésus en a obtenu les bases. Le sang qu'il a versé à la croix est le sang de la Nouvelle Alliance. Mais attention, la Nouvelle Alliance ne commence véritablement à être établie que à la Pentecôte. Alors, c'est le temps de la Nouvelle Alliance. C'est une préparation pour les disciples qui vont former le premier noyau, les 120, vont former le premier noyau de l'Église. Et c'est une préparation pour Jésus également. Ah oui, Jésus ressuscité, c'est une préparation pour lui aussi. Préparation parce que, non pas qu'il avait, lui, à acquérir quelque chose, n'est-ce pas, il avait tout pleinement déjà. Mais, attention, Dieu son Père, c'est lui qui l'élève, c'est lui qui le conduit à travers les différentes phases de son œuvre, de l'œuvre, n'est-ce pas? Alors, il y a une préparation pour Jésus en ce sens que pendant les 40 jours qui précèdent, qui se terminent à l'ascension, Jésus était dans une phase de transition. Il passait de l'œuvre terrestre à son œuvre céleste. Il passait de la vie de l'homme qui lui avait servi à vaincre le péché et la mort, il passait de cette vie à la vie céleste. Entre les deux œuvres, celle qu'il a faite sur la terre et celle qu'il va faire dans le ciel, et entre les deux vies, celle qu'il a menée sur la terre et celle qui est la sienne maintenant dans le ciel, entre les deux œuvres et les deux vies, il y avait un lien, une transition, donc un lien. Il y avait un lien. L'œuvre terrestre préparait l'œuvre céleste, et il y avait une jonction entre l'œuvre du Christ visible et l'œuvre du Christ qui va devenir tout à fait invisible. Là, il est entre les deux. Tantôt, on le voit par des apparitions et tantôt, il disparaît. Alors, il y avait une jonction entre le Christ visible et le Christ invisible et les œuvres et le Seigneur est en voie de devenir, lui, le Seigneur, l'Esprit, comme dira Paul, n'est-ce pas? Le Seigneur, maintenant, c'est l'Esprit, pour le temps de l'Église, pour tout le temps de l'Église. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Aux relations journalières que, avant la croix, Jésus avait avec ses disciples, succédait maintenant, après mort et résurrection, succédait une autre relation avec des apparitions espacées, préparant la relation de Christ avec l'Église uniquement en esprit. Voyez-vous cette transition, n'est-ce pas? Christ ne vit plus tous les jours avec ses apôtres. Non, il ne vit plus avec eux, mais il est vu encore, il apparaît. Je crois que les apparitions, je ne me rappelle plus combien je les ai dénombrées dans l'étude de la résurrection, je crois que c'est 18, quelque chose comme ça. 18 apparitions que l'on trouve dans les textes des évangiles, dans 1 Corinthiens 15, enfin, 18 apparitions. Alors pendant ces 40 jours, à chacune de ces apparitions, le Sauveur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et nous le voyons aussi dans notre livre, donner ses ordres, au verset 2, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Alors, donner ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, ça ne va pas très bien, vous savez, quand je fais l'étude d'un texte, je suis obligé de vérifier assez souvent la traduction de notre version seconde, la comparer à d'autres traductions, et même quelquefois de m'en rapporter à une exégèse faite sur le grec quand j'ai la possibilité de le faire. Alors, par le moyen d'une certaine concordance thématique ou par le moyen d'auteurs qui font on fait l'exégèse comme Frédéric Godet, par exemple. Alors, ici, n'est-ce pas, c'est assez curieux, il donne ses ordres par le Saint-Esprit, mais pourtant, Jésus parle encore de sa propre voix humaine. Il est ressuscité, mais il est là, il parle encore, n'est-ce pas? Nous en avons des preuves. D'ailleurs, il a montré, voyez, que je ne suis pas un fantôme, un esprit matériel. Voyez que je suis de chair et d'os, et il avait mangé. Il avait donc parlé de sa propre voix. Alors, on ne comprend pas très bien par le Saint-Esprit. Mais alors, on s'aperçoit en regardant d'autres traductions, et on peut très bien appliquer par le Saint-Esprit ou par l'Esprit Saint, on peut l'appliquer au choix des apôtres, ou même à l'enlèvement. Donc, je pense que c'est bien préférable jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est important, n'est-ce pas, en effet, que de rappeler que les apôtres avaient été choisis par une direction de Dieu, parce que ils allaient poser le fondement de la foi, avec leur maître Christ, fondement de Christ et des apôtres, et ils allaient être les premiers conducteurs et les premiers instructeurs de l'Église. Au verset 4, nous voyons que le Seigneur recommande. Alors, ici, nous allons le dire, il est avec les 11 apôtres seulement. Il avait eu d'autres apparitions avec bien plus, puisqu'il a eu plus de 500 frères à la fois, en une certaine circonstance, en Galilée. Mais là, n'est-ce pas, il était uniquement, c'était les 11 qu'il avait là. Alors il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors les 11 ont dû convoquer, n'est-ce pas, le reste des disciples pour qu'ils soient dans la chambre haute, les 120 que nous savons. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a des versions qui traduisent ceci, au lieu de mettre comme ils se trouvaient avec eux, qui traduisent « et les ayant assemblés ». Les termes du grec, là, sont des termes qui font un petit peu image, c'est pourquoi on ne peut pas traduire tout à fait littéralement. Alors, « et les ayant assemblés ». D'autres versions, et notamment la TOB, met « au cours d'un repas avec eux », ce qui est assez plausible, « au cours d'un repas avec eux », qui a dû se passer à Béthanie. Le Seigneur, dans cette ultime apparition, c'est la dernière, va leur donner encore ses dernières instructions. Et l'ordre du Seigneur pour les jours suivants sera de ne pas s'éloigner de Jérusalem, et donc, par conséquent, de ne rien concevoir, de ne rien imaginer par eux-mêmes. C'était ça, surtout, que le Seigneur Jésus prévenait. Restez à Jérusalem. N'allez pas imaginer vous mettre à l'ouvrage tout de suite, imaginer quelque chose et concevoir quelque chose, ça aurait été négatif. Alors, donc, l'ordre de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse, d'attendre donc l'effusion du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus avait lui-même annoncé. Ils ne devront pas s'aventurer eux-mêmes dans l'exercice du ministère dont ils ne possèdent pas encore la puissance. Ils ne possèdent pas la puissance du ministère. Une puissance surviendra sur vous, mais vous ne l'avez pas. Alors, ne bougez pas. Chers amis, je ne sais pas pourquoi dans l'Église, c'est une chose que souvent, on a complètement laissé de côté. Ceux qui ne veulent pas admettre que l'effusion du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit soit une seconde expérience. Pourtant, il n'y a pas que des auteurs de Pentecôte qui le disent. Il y en a bien d'autres aussi. Eh bien, ceux-là, enfin, disent qu'à la nouvelle naissance, on reçoit normalement et pleinement le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit dès qu'on est converti à la nouvelle naissance, et puis un point, c'est tout. Mais alors, ceux-là ne recherchent aucune puissance. Et alors, ils exercent souvent un ministère avec des capacités, des dons, qui sont le plus souvent naturels. Et le résultat, c'est que rien n'avance. Rien ne se fait. Et ça, j'en ai été le témoin. Ça, je peux le dire, n'est-ce pas? Vraiment, on a beau déployer de l'éloquence, du savoir, une belle élocution, de belles images, être soi-même quelqu'un qui impressionne un peu son auditoire, on ne fait rien du tout avec tout ça. Rien. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Mais alors, c'est des choses dont il faudrait, bien sûr, tirer le son. Et il faudrait surtout que ceux qui se sentent le besoin de parler, dans l'Église, par exemple, eh bien, se questionnent bien, ou se fassent peut-être plutôt voir à d'autres, n'est-ce pas, qui peuvent les juger. Il faudrait qu'ils s'inquiètent de savoir s'ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit, s'ils disposent d'un appel et s'ils disposent de la puissance. Il faut les deux choses. Cette promesse que le Seigneur Jésus avait faite, elle est dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7, je ne vais pas relire cela, chapitre 7, versets 37 à 39, à la fête de Jérusalem, le Seigneur Jésus avait fait une grande proclamation, ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, et de leur sein, des fleuves d'eau vive couleront, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, mais l'Esprit n'était pas encore donné à ce moment-là, l'Esprit en puissance. Et puis il y a d'autres proclamations dans le chapitre 14, dans le chapitre 15 de Jean. Cette attente était donc conforme aux voies de Dieu, et qui, les voies de Dieu comprennent toujours un temps de préparation et de recueillement. Un temps de préparation et de recueillement. Là, ce sera 10 jours, un temps de recueillement. Alors, dans un temps de recueillement, Dieu prépare intérieurement les cœurs à l'action qu'il désire faire accomplir à ses auxiliaires, à ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis pour cela. Un temps de préparation. Choisi, c'est bien. Appelé, c'est bien. Mais il ne faut pas entrer dans l'action sans un temps de préparation.